Deuxième heure de première loge, Jessica Leb, toujours avec vous pour vous animer jusqu'à 17h30. Et on parle maintenant des matins créatifs qui reviennent demain. Toujours ces déjeuners, conférences qu'on vous propose en matinée, juste avant le travail par exemple. Alors c'est dès 8h au Maelstrom Saint-Roch qu'on vous donne rendez-vous. Ça se trouve sur la rue Saint-Vallier, très exactement, 181 rue Saint-Vallier pour le Maelstrom. Et demain, le thème choisi, c'est parler mystère. Je vous rappelle un thème qui est choisi et qu'on explore partout à travers le monde, partout dans les villes où on organise ces matins créatifs. Et pour Québec, on a choisi d'inviter l'auteur de Polar, Richard Sainte-Marie, mais on l'a aussi connu à CKRL comme animateur de radio de 2002 à 2010. Et il me fait un grand plaisir de le recevoir en studio. Bonjour.
Bonjour.
Quel souvenir as-tu pour commencer de CKRL à chaque fois que tu reviens? 2002-2010, c'est quand même une longue période.
Hein. Oui, mais à chaque... Oui, c'est vrai. Des bons souvenirs. Au début, j'avais une émission à minuit le soir et j'aimais ça parce que c'était sombre tout seul dans la station. Mais s'il y avait des problèmes techniques, là, c'était moins drôle.
Ouais.
Mais ça allait bien. Puis après, avoir travaillé avec Jean-Pierre Gay, c'est le dessert. On a fait une émission ensemble pendant quelques années en art visuel. Mais c'est drôle parce que chaque fois que j'y viens, maintenant je viens pour les interviews, mais ça change à chaque fois. On a peint une autre couleur, les bureaux ont changé de place, il n'y a pas les mêmes figures.
Ben, tu remarques les détails, évidemment.
Oui, parce que je n'ai pas vécu ici, mais je suis venu faire une fois en pyjama mon émission, c'est dire.
Ah bon? À minuit, justement?
À minuit, oui.
Ah ben, comme quoi, de beaux souvenirs.
Oui.
De cette époque CKRL. Mais c'est drôle, on parlait de minuit, c'est sombre, ça rejoint bien l'univers
mystère.
Peut-être dont tu vas nous parler voilà, demain. Parler mystère, est-ce que c'était tout naturel qu'on aille vers toi? C'est un thème qui te parle forcément.
Oui, apparemment on a pensé à moi, c'est Jacques Blanchette qui m'a contacté. Et moi j'ai dit tout de suite oui parce que c'est d'abord participer à un truc qui est mondial, on peut dire, dans 162 villes dans le monde. Demain matin, un peu partout sur la planète, il va y avoir le même sujet, mystère. Non, mais chacun a sa façon de le faire. Et j'ai regardé un peu des fois parce qu'il y a un peu le synopsis de quelques endroit sur la planète où ça va se faire. Alors, c'est chaque fois, c'est le truc des matins créatifs, Creative Mornings. Il y a toutes les façons sont bonnes parce qu'il s'agit d'être créatif. Le concept, c'est simple, hein, c'est un petit déjeuner. Puis on invite des gens qui vont parler, qui vont échanger, qui vont partager parce que c'est la foi dans le pouvoir de la communauté, en fait, les matins créatifs, c'est la foi dans l'échange de savoir, l'échange d'expérience. Puis c'est le fait des rencontres face à face. On peut parler aux gens qui sont là et c'est gratuit. Et c'est bénévole. Tout le monde est bénévole. Moi, je suis pas payé non plus. Et c'est ça qui est la beauté de la chose. C'est vraiment le partage du savoir et des expériences. Moi, demain, je vais jouer le jeu parce que quand Jacques m'a proposé ça, je pensais faire une conférence parce que c'est ça que je fais dans la vie en parlant de mon travail d'écrivain. Mais là, j'ai dit non, je vais faire une création. C'est les matins créatifs. Il faut jouer le jeu. Alors, je vais raconter une histoire. C'est la première fois de ma vie que je fais ça et c'est un rêve que j'avais depuis longtemps. Et demain, je vais le réaliser. J'espère être bon. Mais je me suis pratiqué un peu, mais je pense que ça va aller. Ça va être bien.
Donc, tu as créé une histoire spécialement pour les matins créatifs demain qui va parler de mystère aussi?
Exact. Mais j'ai adapté une histoire que j'avais déjà écrite il y a plusieurs années, qui a été publiée, mais dans un fanzine, quelques centaines d'exemplaires. Ça fait je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait lu ça. Mais quand même, je l'ai adapté. J'ai changé la fin. Je l'ai mis pour que ça soit parlé, que ça soit raconté, parce que la nouvelle avait été écrite. C'était littéraire. Alors, je veux pas lire mon histoire. Je veux faire un petit, comment ça s'appelle, Louis-José Houd de moi-même. Je pense pas y arriver.
Ouais.
Non, mais je veux dire, je veux raconter. Donc, il a fallu que je change tout. Toutes les phrases ont été changées pour que ça soit parlé.
Plus oral, oui.
Plus oral et plus. Malgré que c'est très tragique. Hein. C'est l'histoire d'un gars qui se promène dans la forêt, qui trouve un trésor. Mais c'est pas de tout repos. J'en dis pas plus. C'est pas un cadeau, comme on dit, de trouver un trésor et voilà.
Auteur à l'écrit, et là tu dis l'adaptation que t'as dû faire pour cette histoire, de la rendre plus orale, justement. Est-ce que c'est naturel pour un auteur de conter finalement?
Ben moi, ça m'arrive des fois. C'est-à-dire que il y a certaines phrases qui m'agacent dans mes livres quand je les réécris 10-12 fois. Alors, il y a certaines phrases que j'aime pas. Je passe dessus, mais j'en ai pas honte, mais je dis, ah, ça marche pas ça. Mais alors, tant que je l'ai pas dite à haute voix dans mon bureau, là, c'est là que je vois les défauts. C'est quand je le dis, il faut qu'on l'ait en bouche, même si c'est écrit. Mm-hmm. Et quand ça sonne bien, ben là, je me dis, là, j'ai trouvé la chose. Mais c'est un truc de travail, quoi. Mais j'écris pas des contes pour être raconté. C'est le seul que j'ai fait dans ma vie. Mais je sais qu'il y a d'autres auteurs qui faisaient ça. Il y a Moravia qui faisait ça. Tant que ça sonne pas bien, on l'écrit pas.
D'accord. Même si c'est fait que pour être lu dans sa tête, c'est important que ça coule de source comme ça.
Parce qu'il y a un rythme qui est naturel, qui est normal. Moi, mon idole de ce côté-là, c'est Michel Tremblay. Si on change un mot dans les dialogues, ça marche pas. Il y a une musique.
C'est comme une chanson.
C'est comme une chanson. Mmh. Oui, il y a un beat. Puis il y a le mot, il fit là, puis on peut pas changer tout ça. Voilà.
C'est tel quel, effectivement. En parlant du mystère, quand on est auteur, c'est tout un art de faire durer le mystère, de le créer, de pas le faire trop traîner non plus, parce que le lecteur peut se lasser très facilement.
Ouais.
Ça s'apprivoise tout au long d'une carrière, ça?
Ça se développe, parce que moi, au début, j'avais trop la tendance à tout dire, tout ensemble. Alors, il faut décortiquer, même encore récemment, dans le cinquième livre que je suis en train de faire, j'ai découvert qu'un passage, si je le divise en deux et que je le passe la deuxième partie beaucoup plus loin, dans le, je sais pas, quelques 20 pages ou 30 pages plus loin, ben, j'ai un autre effet. Il faut doser, autrement dit, comme je dis, les mensonges, c'est tout des menteries. Un livre, c'est Il était une fois, dans le fond.
Ouais,
c'est la fiction. Alors, si on dose tranquillement l'information, c'est là que ça crée un feeling d'attente chez le lecteur. Parce que si on dit tout d'un coup, ben, ça marche pas, quoi. Mm-hmm. Mais c'est ça. En fait, il faut aussi adapter si l'écrivain doit être crédible, il faut que le lecteur soit crédule. Ça va ensemble. Il faut adapter le degré de crédibilité, le degré d'invraisemblance à la capacité du lecteur de le prendre. Mm-hmm. Parce que si c'est trop, ça marchera pas. Le lecteur va décrocher. Ou si c'est pas assez aussi. Alors, c'est ça qui est un peu la difficulté.
C'est comme dans la vie, alors qu'on parle de fiction. Plus c'est gros, des fois, plus on y croit. Et puis, il faut que ça soit bien dosé aussi. On pense à des surprises qu'on fait, par exemple. Et oui, c'est ça, c'est tout un art, comme je le disais, d'alimenter le mystère, puis de créer cette surprise. Donc, on le retrouve autant dans les livres, dans l'écriture, que dans la vie de tous les jours.
Absolument, oui, parce qu'il y a des gens qui racontent bien des histoires qui leur sont arrivées. Je sais pas, aller à l'épicerie, puis ils racontent ce qui est arrivé à l'épicerie, puis on est pris par leur façon de raconter. C'est parce que c'est pas l'histoire qui est intéressante en elle-même, oui, bien sûr, mais la façon de la raconter.
De la raconter, évidemment. Demain, donc, pour découvrir cette histoire inédite qui va durer quoi, une vingtaine de minutes environ?
20 minutes l'histoire, puis après, je vais expliquer comment j'ai fabriqué cette histoire-là, parce que c'est les matins créatifs, donc c'est un peu démonter les mécanismes de la création. Et moi, c'est comme un magicien qui va dire comment il a inventé le truc de sortir un lapin du chapeau. Lui, il n'est pas dupe, c'est lui le magicien. Mm-hmm. Mais donc, je vais donner mon truc, je vais expliquer comment je suis arrivé à ça, à cette histoire, comment je l'ai fabriqué, puis comment ils se sont fait prendre. Les gens qui vont être là vont se faire, j'espère, ils vont se faire prendre par mes menteries. Mm-hmm. Et voilà, donc ça va durer à peu près une demi-heure, mais si on veut après continuer, parce que faut penser que les gens ont aussi vont entrer au bureau, au travail, ou je sais pas. Mais ceux qui veulent rester, ben je serai là pour parler avec eux.
Pour échanger à ce moment-là. Et ton rapport au mystère dans la vie, dans ton quotidien, là, on oublie peut-être le chapeau de l'auteur. Puis est-ce que t'aimes créer le mystère aussi dans ton quotidien, que ce soit auprès des proches, pour toi-même?
Ben avec mes petits-enfants, oui. Sinon, non.
D'accord. Mais c'est ça, parce que on dit souvent, on est observateur de notre réalité, de notre quotidien, pour ensuite le mettre dans nos créations, qu'on parle de livres, qu'on parle de spectacles. Est-ce que toi, c'est un procédé que tu as?
Oui, ben moi j'étais prof aussi, ça doit, je suppose que ça doit influencer mon ma façon d'être et de parler. Mais sitôt que j'apprends quelque chose, tout de suite je me pose la question dans ma tête, comment je pourrais raconter ça? Comment je pourrais dire ça? Puis quand je le dis, ben je me suis un peu préparé, quoi. Ben, je ne prends pas des heures, mais si je suis témoin de quelque chose, puis j'arrive, puis je raconte ça, mettons, à mes enfants, un souper ou n'importe quoi, ben j'aime ça que j'aime la raconter, mais il faut savoir la raconter.
Alors, tenir en haleine,
ouais. Mm-hmm. Puis garder le punch pour la fin.
Mm-hmm. Alors c'est drôle parce que demain, oui, tu vas parler mystère, mais pour autant, tu ne te considères pas comme un spécialiste du mystère. Je te cite dans le communiqué de presse, je ne connais rien au mystère. Pour moi, le mystère est un mystère.
Exact, parce que la définition d'un mystère, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est quelque chose qui est inexplicable, qui est inexpliqué, mais qu'on croit. Comme par exemple, il y en a partout dans toutes les religions, mm-hmm. la Sainte Trinité, l'incarnation, une dame qui donne naissance à un bébé en étant vierge. Ben, de nos jours, on sait que ça se peut pas. Mais ça s'appelle l'incarnation, etc. Il y a plein de mystères comme ça. Mais le truc, c'est qu'un mystère, c'est quelque chose qu'on comprend pas, qui s'explique pas, mais auquel on croit.
Mm-hmm. Voilà. Et qui nous intrigue aussi.
Et qui nous,
oui, ce côté-là, non?
Oui, exactement.
Mm-hmm. Alors, on va tenter d'expliquer l'inexplicable demain.
Ah, mon Dieu.
Lors de cette histoire qui vous sera racontée par Richard Sainte-Marie. Et donc, comprendre les mécanismes de cette histoire ensuite. C'est à 8h. Alors, vous pouvez réserver vos billets. C'est gratuit. On le répète. Oui. Autant pour les participants, pour les organisateurs. Donc, il y a le site web des Matins Créatifs. Vous réservez votre place et vous vous présentez demain à 8h. Il y aura évidemment un déjeuner donc qui sera servi pour l'occasion.
Servi, oui.
Merci beaucoup, Richard Sainte-Marie.
Merci à vous. Merci.
Bon matin créatif demain.